question qui rejoint un peu les autres, c'est sur le jugement. Quand on est en méditation ou en pratique, qu'on se rend compte soit qu'on a perdu le fil, soit qu'on s'est coupé le doigt ou avant,
oui.
Et qu'on juge, disons, on aimerait bien que ce ne soit pas comme ça. On aimerait bien que ce soit tout le temps conscientisé, tout le temps calme, tout le temps. Mais ça ne l'est pas. Et ce jugement-là, Michel nous a dit qu'il fallait également le reconnaître en disant ben voilà, il y a un jugement, il y a un état de soit d'insatisfaction, soit de... Mais j'ai moins de la peine à le reconnaître qu'une pensée de projection. Je vais reconnaître, je dis ah ben, tiens, j'ai pensé à mes vacances, ou bien j'ai repensé au week-end. Mais le jugement, j'ai l'impression qu'il n'est plus insidieux, moins facilement.
Qu'est-ce que vous pensez qu'un jugement est ?
Une émotion, plutôt.
Mais cette émotion, elle vient d'où ?
Je sais pas.
Qui juge ? Qui juge ? Il n'y a pas une pensée ? Vous pensez qu'il n'y a pas une pensée pour vous amener un jugement ? Qu'est-ce qui vous donne qu'est-ce qui fait surgir en vous cette émotion du jugement?
Ben, c'est d'avoir 6 fois la pensée sur la semaine prochaine ou les vacances et puis de ne pas être concentré sur le moment présent. Au bout d'un moment, ça m'énerve.
Non, mais si vous jugez une chose, c'est qu'il y a eu une pensée. Quelle est la pensée qui fait que vous la jugez négativement, disons? Comment vous pourriez me donner une pensée qui juge négativement?
Comment est-ce que je pourrais la donner ?
Comment vous la communiquez ? Comment vous pourriez la communiquer ? Vous la communiquez à moi, par exemple.
Qui juge négativement.
Voilà, voilà. Qu'est-ce qui amène cette pensée de jugement ?
Les autres pensées avant.
Est-ce que ça ne serait pas... Si une chose vous plaisait, vous la jugeriez ?
Oui, positivement, je pense.
Voilà. Et l'autre, négativement.
Voilà.
L'un, ça me plaît, l'autre, ça ne me plaît pas.
C'est ça.
Et vous pensez.
Désagréable.
Voilà. Et vous pensez que cette pensée n'a pas surgi quand l'émotion est venue. Une émotion ne vient pas toute seule. Une émotion ne vient pas toute seule. Il y a déjà eu un concept qui est arrivé dans votre conscience pour dire je n'aime pas ça. Donc, ce que vous disiez, c'est que quand la. Quand vous avez cette émotion, vous n'avez pas à avoir cette pensée. C'est très normal parce que quand on est dans l'émotion, il est très difficile de voir la pensée derrière. Il est très difficile. L'émotion couvre tout. Ça embrouille tout. Ça confuse tout, l'émotion. L'émotion n'est rien de jugement. L'émotion, elle est telle qu'elle est. Il n'y a aucun problème. Une émotion n'est pas un problème si on commence à être conscient de cette émotion. Hein. Mais l'effet de l'émotion sur l'intellect, hein, sur le mental, notre capacité de penser est très diminuée en quelque sorte. Hein. Ou si elle n'est pas diminuée, elle est très réactive. Elle est réactive, elle n'est pas responsive. C'est pas une réponse, c'est une réaction très souvent. Ben, il n'y a rien à faire. C'est toujours vraiment un travail d'observation. Et cette observation, ce sont des mots banals. Banaux, on dit banaux ou banal ?
Banal,
ce sont des mots banals, l'observation, par rapport à l'expérience qui est derrière cette observation. Parce que derrière cette observation, il y a quoi ? Il y a cette énergie de l'attention qui vous contacte, qui peut vous faire surgir en vous la sagesse, la compréhension juste des choses, qui peut vous amener une compassion envers vous-même et la situation dans laquelle vous êtes, qui peut vous amener beaucoup de choses. Hein? Donc quand on parle d'observateur, on parle d'une mine de possibilités. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, le simple fait de dire « je n'arrive pas à avoir cette pensée-là », simplement rester à l'observation de cette phrase-là. Et ramener l'attention sur cette phrase. Contemplez-la, en d'autres mots. Contemplez-la, faites un objet de contemplation. Et vous allez voir ce qui se passera. Tout, de tout, on en fait un objet de contemplation. Au lieu d'en faire un objet, un problème, on en fait un objet de contemplation. Quelle joie. Vous vous rendez compte? Au lieu d'en faire un problème. C'est pas extraordinaire, ça? Ça ne veut pas dire que ce soit bien misérable aussi. Hein, ouais, on a tous pleuré, on s'est tous plaints, on a tous pensé que c'était eux leur problème, et non pas moi. Donc, oui. Attends, d'abord, vous avez cette question, t'es première dans la ligne, oui. Voilà.
Moi, je me demandais, quand l'émotionnel est très fort, et oui. Puis le mental confus, à la limite, je me dis, mais quand je m'assiège, je peux encore l'observer.
Mais oui, oui.
Et moi, le problème, il se pose vraiment, bah, quand je suis nouveau après dans l'interaction avec des personnes avec qui c'est super difficile. Quel outil ou quoi faire? Parce que ça me paraît, je me fais déborder par les interactions.
Et oui. C'est-à-dire, un ego tout seul qui gère son truc, bon, voilà. C'est pas trop difficile. Mais deux égos à la fois, alors là, c'est la guerre. Ouais. Hein, facilement, je dis pas nécessairement, mais c'est beaucoup plus dur. Hein. Ben, on apprend petit à petit, hein. Petit à petit, vous êtes les réactions peut-être très fortes une fois, et puis vous êtes conscient de cette réaction, vous ne vous battez pas, vous ne maltraitez pas parce que vous n'êtes pas arrivé à être aussi l'idéal que vous imaginez, que vous aimeriez être. Mais la prochaine fois, la prise de conscience de cet état mental, ou de cette émotion, ou de cette réaction, fait que si vraiment vous êtes présent, la prochaine fois, il y aura un rappel, attention. Attention, on ne retombe pas dans le même truc. Ça n'a pas marché la dernière fois, attention. Ça ne marchera peut-être pas cette fois non plus. Tout est dans la discipline, tout est dans le... On développe justement cette qualité d'attention qui nous permet de voir plus clairement, qui nous permet la retenue quand les choses sont dangereuses, hein, quand on sait que dangereuses, je veux dire par là, quand on va commencer à réagir d'une manière aveugle et négative, qui amène à la colère, la rage, même l'action violente, si ce n'est pas pris à temps. Hein. Donc le fait de reconnaître que c'est plus difficile, c'est déjà une étape. Donc votre question est très bonne parce que c'est déjà une étape. C'est déjà un grand pas en avant. Les gens ne se rendent pas compte que le fait de devenir conscient, c'est un énorme pas dans la pratique. Vous avez déjà fait un énorme travail pour devenir conscient d'une chose, en vous-même, même sans vous rendre compte quelquefois. On ne se rend pas compte quelquefois combien la qualité d'attention qu'on a. On a beaucoup plus d'attention qu'on s'imagine. Le drame, c'est qu'on ne l'utilise pas beaucoup. On n'en fait pas vraiment un travail conscient. Hein? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais...
Oui, vous avez parlé, ça m'a vraiment beaucoup touché, et puis ça m'a mis un mot sur quelque chose dont je n'étais pas consciente, c'est l'esprit, sweet liar. Et en fait, c'est comme tout, un petit peu évident, mais je n'avais jamais pensé comme ça, mais ça, c'est quelque chose vraiment qui me parle beaucoup, mais maintenant c'est comme s'il y avait un mot dessus, mais vous pouvez en dire un tout petit peu plus là-dessus?
Parler un petit peu plus là-dessus, oui. Hein. Bah, vous savez, vous êtes bien rendu compte dans votre vie quotidienne combien de fois on veut paraître ce qu'on n'est pas. Sans aller très loin, hein, on est peut-être furieuse, mais on a envie de paraître gentille et bouddhiste. Vous avez remarqué combien le problème vient quand on met déjà le mot bouddhiste sur sa vie? Les plus difficiles, hein? Quand on apprend, on marche sur la voie bouddhiste, il y a le danger de faire remonter cette habitude de juger constamment, hein, ce que je devrais faire, de juger mes habitudes par rapport à ce que j'imagine, ce que je devrais faire si j'étais vraiment un bon bouddhiste, par exemple, ou un bon pratiquant de la méditation. L'orgueil nous fait dire des tas de choses qui ne sont pas vraies. La peur nous fait dire des tas de choses qui ne sont pas vraies, nous fait agir de manière qui n'est pas vraie. Est-ce que vous avez rendu compte que quelquefois vous êtes dans une situation et vous ressentez quelque chose, mais vous, personne ne le voit, et donc vous allez agir comme si tout allait bien, tout était parfait, etc., alors que vous êtes en train de, comment dirais-je, de partir en miettes à l'intérieur, hein, de vous décomposer à l'intérieur. Mais on continue, tout va bien, oui, oui, non, il n'y a pas de problème, non, non, tout va bien, tout va bien. Mais il y a des formes beaucoup plus subtiles. Moi, je me souviens le côté non-soi, hein, de la pratique. Quand on dit, il n'y a personne, c'est juste des mécanismes en quelque sorte. Moi, je me souviens quand j'étais une jeune nonne, c'était une novice, en fait, j'étais en blanc, comme, parce qu'elle est restée pendant un an à Marawet, deux ans. Hein. Eh bien. On avait fait une retraite d'un mois, c'était tout à fait au début de ma vie monastique, et je me souviens, j'avais des amis, un ami qui était, enfin des amis à la communauté qui étaient là, et je parlais avec une personne, et je me souviens de, j'étais extrêmement, vous savez, après les méditations, on se sent extatique, c'est comme si un peu, si on planait un petit peu au-dessus du sol, on se sent heureuse et bien, on a le sentiment d'être très agréable, on est dans une humeur agréable, etc. Et en parlant à cette personne, je me souviens, j'ai pris conscience que mon esprit voulait vraiment avoir cette image face à la personne. Il fallait que j'aie cette image. Je voulais la perpétuer là. Et j'arrivais plus au bout d'un certain moment. À bout d'un certain moment, j'arrivais plus à tenir que ça. C'est comme ça que je me suis rendu compte. Je me forçais en quelque sorte. Il y a quelque chose en moi qui continuait artificiellement à tenir cette image. C'était très drôle. C'est subtil quand même. C'était pas vraiment une chose que j'aurais remarqué si j'avais pas été peut-être après fait une retraite de méditation. Mais aussi, quelquefois, on est la société nous demande beaucoup de se mentir à soi-même, parce qu'on est tellement obligé d'être extrêmement poli les uns les autres, de respecter nos supérieurs, de ne pas avoir l'air de la personne que l'on n'aime pas finalement. On n'aime pas être en colère, on n'aime pas être furieux, on n'aime pas être mal poli et vulgaire, etc. On n'aime pas être grossier, et pourtant envers soi-même, quand la colère est là, elle peut faire sortir tous ces aspects de nous-mêmes. Hmm? N'est-ce pas? Hein? Vrai, pas vrai? Hein? Bon, c'est presque à tous les tournants, enfin, je dis pas à tout le monde, mais qu'une fois qu'on a compris que comment je pourrais vous expliquer ça? C'est pas toujours aussi évident que l'on s'imagine de voir cet esprit qui nous raconte des histoires. Hmm. Par exemple, vous percevez une personne. Hmm. Personne ne vous regarde. Vous avez remarqué les histoires qui peuvent surgir en vous sur cette personne qui n'a peut-être rien à voir avec la personne elle-même ? Elle va vous raconter toutes sortes de choses. Une personne vous regarde, elle est en colère avec moi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Est-ce qu'elle ne m'aime pas, etc. Alors que la pauvre personne est en train de souffrir d'un rhume, a le mal à la tête, et quand elle vous a regardé, c'est tout à fait par hasard. Et puis après ça, vous lui projetez des tas de méchanceté envers elle. Parce que si quelqu'un ne nous aime pas, ben on ne va pas être très gentil avec cette personne, on va la voir d'une manière négative, donc son rhume va augmenter, sans doute, avec les balancements de négativité qu'on fait à une autre personne, donc son organisme ne va pas s'améliorer. Ou bien, quand on est pris par surprise par quelqu'un d'autre qui vous dit que vous êtes en colère, vous avez vu comment vous répondez ? Vous dites la vérité ou pas ? Vous dites la vérité ou pas ? C'est ça le suite là, Ya. Mais il y a une histoire que je vais vous raconter, parce que c'est un enseignement que j'ai donné il y a plusieurs années, et c'est une expérience que je connais bien. Vous pouvez passer, par exemple, vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez bien, et vous lui parlez gentiment de vous-même, vous dites, oui, moi, je ne suis pas très gentil, franchement, je ne suis vraiment pas sympa, quoi. Je suis vraiment impatiente, je suis... rien ne me met en colère, je ne supporte plus cette personne, j'en ai marre vraiment de la vie, je suis vraiment, je suis jalouse, je suis envieuse, etc. Avec un pathos à l'intérieur de nous-mêmes, vraiment, on a un sentiment très profond qu'on est extrêmement vrai à ce moment-là. Hein, on dit vraiment la vérité à son voisin, à sa voisine, profonde vérité de soi-même à son voisin et sa voisine. Et tout à coup, on se tourne vers son voisin ou sa voisine, et cette personne vous dit « Oui, c'est vrai, tu as raison. » Vous avez remarqué ce qui se passe avant quand vous l'êtes vous-même, et après quand quelqu'un d'autre vous le dit. C'est ça le suite layer. Hein, vous comprenez ça? Faut pas se leurrer, hein. Tant que je parle de moi, je suis à l'aise, aucun problème. Je peux être le pire caractère, tant que je parle de moi, que je reconnais, je me sens vraiment vrai avec moi-même, conscience tranquille, honnête. Toutes sortes de qualités très positives. Et quand c'est mon voisin qui est d'accord avec ce que je viens de dire, on a envie de lui tordre le cou parce que... On a envie de lui dire, mais
et toi?
Non mais et toi, absolument. Absolument, et toi? Non mais, oui, tu te rends pas compte? C'est ça le mental, comment il peut nous raconter des histoires qui sont complètement à côté de la plaque, je dirais. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre un point d'interrogation à la fin de tout ce qu'on en perçoit, de tout ce que l'on entend, de tout ce que l'on voit, de tout ce que l'on sent, de tout ce qui se passe comme expérience, toujours un petit point d'interrogation. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On ne sait pas. Mais je parle de ce point d'interrogation comme un entraînement de l'esprit. Hein? C'est-à-dire que vous entraînez votre esprit à ne pas croire aveuglément à vos expériences. Vous savez déjà qu'elles sont impermanentes, qu'elles sont non-soi, qu'elles sont insatisfaisantes, mais aussi, il faut vraiment faire un petit travail pour garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire que si vous croyez à ce qui se passe, à vos perceptions, ça se ferme immédiatement. Ça se replie sur une perception. Quand on dit peut-être que oui, c'est pas sûr, pas sûr. Tout à coup, l'esprit, il y a un peu d'espace pour vivre. Il n'est pas emprisonné dans une idée ou une pensée. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, un des grands enseignements d'Ajahn Chah, notre grand-père spirituel à tous, son enseignement essentiel dans la pratique de tous les jours avec les moines avec qui l'entraînaient, c'était toujours « maine ». Et en thaïlandais, ça veut dire « non, c'est pas sûr, pas sûr ». Not sure, maine. Maine non. Ne non, ça veut dire sûr, mai, ça veut dire not. Non, pas sûr. Et ça, si vous développez une phrase aussi simple que ça dans votre vie, vous allez voir à quel point vous pouvez apprendre à détendre votre mental. Parce que dès qu'on se fixe sur une chose, c'est un stress pour le mental. Le mental est prisonnier de cette rigidité de la pensée. La pensée est rigide quand même. À moins qu'elle soit dans un espace contemplatif où on ne s'accroche pas à elle d'une manière obsessive. Hein? La pensée, c'est un outil. Donc, ce n'est pas une chose qu'on doit arrêter. La pensée, c'est ce qui nous aide à avec beaucoup de choses. Hein? Nous aide à voir les choses clairement, à vivre quotidiennement, à rendre un sens à la vie que l'on vit. Mais si on s'y accroche et qu'on s'identifie à la pensée, ça peut facilement nous empêcher de voir les possibilités qu'il y a dans notre esprit, en dehors de ces concepts. Quoi, hein? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelqu'un d'autre qui non? Oui?
Je voulais parler un peu de cette histoire de jugement et d'émotion. Vous avez dit que l'émotion ne surgit pas tout seul. J'ai mal compris. Est-ce que c'est ce que vous avez dit?
Vous savez, l'émotion, non, c'est un gros emballage en quelque sorte, hein, l'émotion. Il y a des pensées, il y a des perceptions, il y a des... des sensations physiques. Hein, une sensation physique va nous amener une émotion. Hein, mais dans cette sensation physique, il n'y avait pas déjà la pensée « je n'aime pas ça », il n'y aurait pas de mouvement quelque part, il n'y aurait pas un mouvement émotionnel. Il y a déjà ce qu'on appelle l'aversion quelque part. Hein. Il y a déjà l'idée « je n'aime pas, je ne veux pas ». Ce n'est pas nécessairement, comment dirais-je, ça ne se manifeste pas nécessairement par une pensée, mais il n'y aurait pas de mouvement de l'esprit s'il n'y avait pas « je n'aime pas » ou « je ne veux pas ». On parle beaucoup des émotions de nos jours pour comprendre que c'est une expérience qui est très importante dans notre vie. Pas une chose à rejeter ou à juger, parce que l'émotion nous donne un message qui est très clair souvent, même si ça change constamment. Hein, les choses sont impermanentes, donc ce que l'on sent maintenant ne sera pas ce que l'on sent dans une minute, peut-être. Déjà de comprendre que ce que l'on sent, ce que l'on ressent dans l'instant ici, dans quelques minutes, il va être différent. Et c'est pour ça que si on ne comprend pas cette impermanence des émotions, ce côté fluide des émotions, on a du mal à les gérer. Parce qu'elles sont très envahissantes. Une émotion, ça touche aux perceptions, ça touche aux pensées, c'est conditionné par toutes sortes de nombreux aspects de nous-mêmes. Hein. On voit une chose tout à coup, sans qu'on le sache pourquoi, on se met à pleurer. Hein?
C'est pour ça que la pensée me semblait postérieure à l'émotion.
Pas nécessairement, non, pas nécessairement. Il n'y a pas vraiment, toutes les études qu'on a faites sur les émotions, il n'y a encore pas vraiment, il n'y a personne qui peut vraiment expliquer comment ça se passe. Vraiment, parce que j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Il y a toutes des études du cerveau, il y a toutes des études sur la façon du fonctionnement du cerveau. Mais vraiment, j'ai pas rencontré quelqu'un qui puisse dire exactement, définir exactement une émotion. Hein? C'est une chose qui touche le système nerveux, qui touche le cerveau reptilien ou les divers aspects de nos cerveaux. Ce qu'on appelle sankhara, quand je parle de pensée, je parle de sankhara. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le sanskrit ou samskara ou sankhara. C'est-à-dire, ça touche à une espèce de paquet une construction mentale quelque part. Construction mentale, construction particulière. Par exemple, il y a des gens qui, pour certaines situations, vont les rendre jaloux, par exemple, alors que la personne à côté ne sera pas du tout jalouse. Hein? Donc, quand on parle de pensée, c'est pas seulement je pense ceci, ceci, cela, c'est aussi une formation mentale. Une construction mentale. Concept, oui.